participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer. L'héritage Goldman revient. L'aventure continue pour un nouveau voyage musical. Un show explosif pour redécouvrir les tubes cultes de Jean-Jacques Goldman et ceux qu'il a écrits pour les grandes voix de la chanson française. L'héritage Goldman 2, une tournée événement à ne pas manquer à partir du 17 septembre avec Europe 1.
Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Bien plus confortable, non ? Citroën C3, avec ses sièges et ses suspensions Advance Comfort. À partir de 15 750 euros pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin. Disponible également en version électrique et hybride.
Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'une Citroën C3 U9 hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1, il est 20h.
Europe 1 Soir Week-end.
19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin.
Le journal Maël Hassani, le Moyen-Orient au bord de l'embrasement ce soir.
Depuis la nuit dernière, l'armée israélienne mène des frappes sans précédent en Iran. Des sites nucléaires et militaires sont touchés, des cadres du régime des Mollahs éliminés. Téhéran promet une riposte massive, le monde entier retient son souffle. Emmanuel Macron s'est exprimé ce soir depuis l'Élysée. Nous serons sur place dans quelques instants. Cette opération israélienne est menée dans un moment de faiblesse du pouvoir iranien. Alors peut-elle entraîner la chute de la République islamique ? Vous entendrez l'analyse d'une opposante notoire au régime des Mollahs, la militante féministe et pro-démocratie Mona Jafarian. Dans ce journal également, une marche blanche en début de soirée à Nogent, en Haute-Marne, pour rendre hommage à Mélanie, cette surveillante tuée par un collégien de 14 ans mardi dernier.
Et puis, le temps, la tendance, Marlène Durie, il y a des orages. Orange sur beaucoup de départements ce soir.
29 départements, on a des orages qui remontent depuis le nord de la Bretagne et le nord des Pays de la Loire, vers la Normandie et plus tard vers les Hauts-de-France en passant par la région parisienne, d'autres dans le sud-ouest, donc prudence. Et puis la chaleur qui va se décaler vers l'est demain encore, 27 à 36 en général.
Et météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et les frappes israéliennes se poursuivent ce soir en Iran, Maël.
L'État hébreu déterminé à mettre un coup de grâce au programme nucléaire iranien. Depuis la nuit dernière, des sites militaires et nucléaires sont bombardés en Iran. Plus de 200 cibles atteintes. Des cadres du régime des Mollahs éliminés. C'est le cas du chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami. Téhéran considère cette offensive comme une déclaration de guerre et promet, je cite, les portes de l'enfer à Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'attend d'ores et déjà à plusieurs vagues d'attaques, d'attaques iraniennes en guise de riposte.
Le monde entier craint une escalade militaire incontrôlable entre les deux puissances et Emmanuel Macron prend la parole.
Signe que la situation est particulièrement grave, le président de la République vient de tenir une conférence de presse. Bonsoir Arthur Delaborde.
Bonsoir Maël, bonsoir à tous.
Vous êtes à l'Élysée pour Europe 1. Emmanuel Macron a commencé cette prise de parole en décrivant le danger que représente l'Iran pour la sécurité mondiale.
Effectivement, Emmanuel Macron pointe d'abord la responsabilité de Téhéran dans l'escalade régionale.
Le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement la stabilité collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, car c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous.
Le président appelle à une reprise urgente des négociations, mais prévient « la France ne restera pas passive en cas d'agression contre Israël ».
La France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité en ce sens. À l'inverse, je n'envisage aucunement de participer à quelque opération offensive que ce soit.
Sur le territoire national, le dispositif Sentinelle sera, lui, renforcé pour répondre à toute menace potentielle. Sur le plan diplomatique, enfin, Emmanuel Macron réaffirme la détermination de la France à reconnaître l'État de Palestine. Et la question sera au cœur d'une réunion de l'ONU mercredi à New York.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 en direct de l'Élysée. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence d'ici une heure à la demande de Téhéran, Moscou et Pékin. Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président iranien. Il condamne ces frappes israéliennes et propose d'endosser le rôle de médiateur entre les deux ennemis. La Chine fait part de sa préoccupation et redoute, je cite, les graves conséquences que cette situation pourrait entraîner.
Les États-Unis se retrouvent dans une position délicate alors que des échanges diplomatiques sont toujours programmés mais dimanche entre Washington et Téhéran sur le nucléaire iranien.
Bonsoir Rémi Amalvi.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Malgré l'offensive israélienne, Donald Trump reste déterminé à conclure un accord.
Oui, le président américain exhorte encore et toujours Téhéran à ne pas quitter la table des discussions. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien, a-t-il estimé tout à l'heure sur son réseau Truth Social, prévenant que les prochaines attaques israéliennes seraient encore plus brutales. Selon les médias américains, Donald Trump avait donné 60 jours à Téhéran pour accepter la proposition de Washington et l'attaque israélienne est intervenue au 61e jour. Donald Trump était d'ailleurs au courant qu'Israël comptait bombarder Téhéran, une opération militaire qu'il aurait même qualifiée d'excellente. Un revirement alors que le président américain demandait hier à Israël de ne pas attaquer Téhéran, sous peine, je cite, de tout faire capoter. Il estimait aussi qu'un accord avec l'Iran était très proche. D'aucuns affirment ce soir qu'il pourrait s'appuyer sur l'offensive israélienne pour contraindre les Iraniens à poursuivre les négociations. Un peu plus tôt aujourd'hui, Donald Trump a réuni son Conseil de sécurité nationale pour discuter du dossier. On attend encore de savoir ce qui s'y est dit.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Dans l'actualité également de ce vendredi, il est 20h05 sur Europe 1, cet ultime hommage à Mélanie.
Oui, une marche blanche organisée à Nogent, en Haute-Marne, en mémoire de cette surveillante tuée par un collégien de 14 ans mardi matin. Le cortège s'était lancé à 18h du collège Françoise Dolto, où s'est déroulé le drame. 1500 personnes étaient réunies dans une grande émotion, tant cette mère de famille de 31 ans était unanimement appréciée.
On est tous là pour elle, même si malheureusement elle n'est plus là, mais elle sera toujours là dans nos cœurs, donc c'est le principal. C'était quelqu'un de super sympathique, je la connaissais un peu extérieur, elle était drôle, on peut rien lui reprocher, elle était superbe, gentille, souriante, on pouvait parler avec elle, c'est quelqu'un de franchement parfait.
Ça n'a aucun sens, on plaint le petit, les parents.
J'étais très triste, en colère aussi, surtout les propos qu'on avait entendus, qu'il n'avait pas de remords.
Bah, de la colère aussi, c'est inimaginable, c'est irréel.
Réaction recueillie par Noé Chaillot pour Europe 1. Une cagnotte est toujours ouverte pour soutenir les proches de Mélanie. Plus de 20 000 euros déjà récoltés. Le meurtrier reste quant à lui en détention provisoire. Il est mis en examen pour meurtre aggravé et en cours 20 ans de prison. Un an après le viol d'une fillette de confession juive à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, les deux mineurs jugés depuis mercredi devant un tribunal pour enfants sont condamnés ce soir à 9 et 7 ans de prison ferme. Le Premier ministre François Bayrou dit avoir une pensée pour les jeunes victimes de l'accident d'autocar survenu à la mi-journée dans la Sarthe. 4 morts et 9 blessés graves sur l'autoroute A81 au niveau de la commune de Degré. Le véhicule transportait des Ukrainiens de retour d'un voyage scolaire dans le Morbihan. Les victimes décédées sont âgées de 15 à 17 ans. Une opération de démoustication réalisée à Lacro dans le Var. C'est dans cette commune qu'un premier cas autochtone de chikungunya vient d'être détecté. Premier cas en France métropolitaine cette année. L'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce également une enquête en porte-à-porte dans le quartier du patient pour identifier les personnes présentant des symptômes de la maladie. Et puis du rugby ce soir, premier barrage pour accéder aux demi-finales du top 14. L'aviron bayonnais reçoit Clermont à 21h05. Le vainqueur de la rencontre retrouvera le Stade toulousain dans le dernier carré.
Merci beaucoup Maëlle. Bon, je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci sur Europe 1. Il est à 20h08. La météo, Marlène Duré. Attention aux orages. Cette vigilance donc sur de nombreux départements, orages et grêles ce soir.
Oui, effectivement. Bah, d'ailleurs, la grêle est tombée dans le secteur d'Argentan, dans le département de l'Orne. 5 cm, hein, voilà, c'était prévu. Et puis aussi, on a eu une rafale à 99 km à l'heure. Un bel orage aussi qui était assez actif en région bordelaise. Et donc, soyez prudents, puisqu'effectivement, on a 29 départements. Alors, côté nord-nord-ouest, 18 départements, je les redonne. Hein. Mayenne, la Sarthe, l'Eure-et-Loire, tous les départements normands, la région parisienne, les Yvelines, le Val d'Oise, la Somme, l'Oise et le Nord-Pas-de-Calais, et puis 11 autres départements dans le sud-ouest également. Ça concerne toute l'Aquitaine et quasiment tous les départements du Midi-Pyrénées, sauf le Tarn et l'Aveyron qui restent en jaune. Donc attention aux fortes intensités de pluie, bien sûr, aux phénomènes tourbillonnaires, puisqu'on peut encore avoir des pointes à 100 km à l'heure et même les dépasser, et puis ces chutes de grêle, voilà, on dit 2 à 5 cm en général. Et pour les températures, parce que ça c'est aussi l'autre information, avec cette chaleur qui va se décaler. Alors demain, on attend encore 36 degrés, température sous abri à Strasbourg. Il fera 35 à Lyon, 34 à Nîmes et Marseille, 33 à Nancy et Besançon, 30 à Nevers, 29 à Reims, à Aurillac, 29 à Paris et Nice, 28 à Toulouse, 27 à Lille, 25 au Mans et un petit peu plus de fraîcheur du côté de Caen avec 22 degrés ou encore à Brest, 19.
Merci beaucoup Marlène. À tout à l'heure sur Europe 1, il est 20h09. François-Xavier Bellamy, eurodéputé et vice-président exécutif Les Républicains, est mon invité dans quelques instants. Évidemment, on va revenir sur la situation en Israël. D'après les informations que je reçois en direct, il y a une attaque massive qui frappe Israël au moment où je vous parle. Est-ce que l'Iran a commencé à riposter et a promis les portes de l'enfer à Israël? Est-ce que cette attaque a commencé? Est-ce que c'est celle-là? On va en parler dans un instant. Quelle est la position de la France, du Quai d'Orsay, d'Emmanuel Macron, qui a tenu une conférence de presse qui a duré trois quarts d'heure? On va poser ces questions à François-Xavier Bellamy. On reviendra aussi sur cette marche blanche en hommage à Mélanie, qui a été tuée sauvagement de coups de couteau par un adolescent qu'il a pris pour cible au hasard. François-Xavier Bellamy est aussi professeur de philosophie. J'aimerais aussi avoir son regard sur la jeunesse d'aujourd'hui, alors que Philippe Guibert et Georges Fenech sont arrivés dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Pascal.
Merci d'être sur Europe 1, il est 20h10.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390€ par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Accédez directement à tous les podcasts originaux Europe 1 Studio sur l'application Europe 1. Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre particulière du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute, comme le but décisif du match. Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699€ par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisiere.fr. Costa.
Et si chaque voyage devenait extraordinaire?
DS Automobile présente
le Weekend DS Collection Jules Verne. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, embarquez dans un univers avant-gardiste à bord de DS7 Collection Jules Verne. Profitez de ces technologies de pointe comme la conduite semi-autonome DS Drive Assist et succombez à ses finitions haut de gamme. Prenez rendez-vous en DS Store sur dsautomobile.fr.
DS Automobile.
Pensez à covoiturer.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Pascal de la Tour du Pin.
Il est 20h12, la riposte massive de l'Iran vient de commencer sur Israël. Voilà les informations qui nous arrivent, informations en temps réel. Isabelle, que nous avions en direct tout à l'heure, qui habite à Netanya, m'envoie même des photos avec les alertes et avec ce qui se passe dans le ciel israélien. C'est une attaque massive. Bonsoir François-Xavier Bellamy, merci.
Bonsoir.
D'infiniment d'être en studio ce soir, eurodéputé et vice-président exécutif Les Républicains. Vous êtes aussi professeur de philosophie, c'est ce que je disais aux auditeurs d'Europe 1. Votre regard sur la jeunesse en France, au vu de l'actualité de cette semaine, est très important. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle d'actualité. Emmanuel Macron a pris la parole il y a quelques instants. Il vient de finir un point presse pour parler de la situation, évidemment, au Proche-Orient qui nous inquiète tous ce soir. Est-ce que vous avez été peut-être convaincu par les mots du chef de l'État qui dit en substance que oui, l'Iran ne devait pas avoir cette arme nucléaire, que l'Iran était prêt de l'avoir. Donc Israël soutient Israël, mais en même temps, nous parle de la création d'un État palestinien dans la même conférence de presse. Comment avez-vous trouvé le président ?
D'abord, la situation est infiniment grave. Et je pense qu'il faut que nous mesurions l'ampleur de ce qui est en jeu. Le président de la République a reconnu les faits et le risque majeur que représentait le fait que l'Iran était peut-être sur le point de disposer d'un vecteur nucléaire. Évidemment, il y avait tout le temps nécessaire pour la miniaturisation de ce vecteur et pour le rendre opérationnel. On n'en était pas encore là, mais en revanche, on était peut-être tout près de la possibilité de construire ce qui aurait été, on peut l'imaginer, un risque majeur, bien sûr un risque existentiel pour Israël. quand je vois que les autorités iraniennes publient ce matin un message pour dire « ce n'est pas nous qui avons commencé », il faut quand même se souvenir, il faut que tout le monde se souvienne, il faut que tous les responsables politiques français de tous les bords soient capables de le dire. L'Iran menace Israël, l'Iran menace l'existence d'Israël toutes les semaines, tous les jours, depuis des années maintenant. Donc le risque était majeur pour Israël. Mais le risque était également majeur pour nos pays. Israël est confronté à une menace qui s'adresse à nos pays. Et donc, oui, le risque était immense. Maintenant, dans la position du président de la République, je vois malheureusement une espèce de « en même temps de nouveau et qui me paraît particulièrement préoccupant dans la période que nous vivons. En même temps, parce qu'il se dissocie de ses frappes tout en expliquant que leur effet est bénéfique. Donc, on a du mal à comprendre complètement la logique. Et puis surtout parce que je ne vois pas comment on peut, c'était déjà intenable, mais comment maintenant on peut continuer à promettre la reconnaissance d'un État de Palestine dans ce contexte international.
Pourquoi s'obstine-t-il, selon vous, François-Xavier Bellamy, le chef de l'État, pourquoi à chaque fois remet-il cette question sur la table alors qu'on sait pertinemment, mais il a listé les éléments qui permettraient la reconnaissance d'un État palestinien, on n'y est pas du tout. Pourquoi continue-t-il à en parler ?
Je pense que encore une fois, c'est dans ces situations-là, il ne faut pas tenter de pratiquer une forme d'ambiguïté au motif d'un en même temps serait infiniment dommageable. Et on voit bien que la position du président de la République sur ce sujet, elle n'a cessé de varier au cours des derniers mois, des dernières semaines encore. Moi, ce que je crois profondément, c'est que la situation des civils à Gaza est évidemment un drame absolu. Et je pense d'ailleurs ce soir, bien sûr, à tous les civils israéliens qui sont infiniment inquiets de la riposte de l'Iran. Je pense aussi à tous les civils iraniens qui vivent sous le joug du régime islamiste qui s'impose à eux par la violence depuis de nombreuses années maintenant. Aujourd'hui, il faut sortir de cette spirale de la violence, mais on n'en sortira pas en offrant quoi que ce soit à ceux qui l'ont organisé. Et la reconnaissance de l'État de Palestine, ce serait une prime offerte à l'action du Hamas. On n'en serait pas là aujourd'hui si le Hamas n'avait pas déclenché le 7 octobre, qui a précipité toute cette région dans l'enfer. Et en voulant donner des gages, peut-être, à la population civile de Gaza, paradoxalement, je crois que l'idée de cette reconnaissance aujourd'hui, en particulier, ne serait rien d'autre qu'une espèce de récompense offerte au terrorisme.
Donc vous y êtes opposé, François.
Bien sûr. Je crois que dans la durée, il faudra évidemment trouver une solution qui permette à chacun de vivre dans la paix et dans la dignité. Et les Palestiniens ont droit, évidemment, à cette dignité. Ils ont droit, évidemment, à la reconnaissance de leur place. C'est absolument incontestable. Mais le faire aujourd'hui, et vous le disiez à l'instant, quand le président de la République cite simultanément toutes les conditions qu'il mettrait, dont tout le monde voit bien qu'elles ne sont en aucun cas susceptibles d'être réunies, malheureusement, à court ou moyen terme, je crois que ça n'a pas de sens. Et que le bon sens voudrait qu'on dise, évidemment, le moment n'est pas celui-là. Le moment, c'est celui de la sortie de la menace immédiate que représente aujourd'hui l'Iran et tous ses proxys. Je pense au Hezbollah qui a tyrannisé le peuple libanais pendant si longtemps. Je pense, bien sûr, aux Houthis. Tout cela engage aussi nos intérêts. C'est le commerce mondial, c'est le commerce de nos pays. C'est notre approvisionnement dans des denrées essentielles. Je pense évidemment au pétrole. Donc c'est ça l'urgence aujourd'hui. C'est ça. La clé, c'est de garantir que demain, nous n'allons pas être nous-mêmes entraînés dans ce risque multifactoriel, risque pour notre sécurité, risque majeur pour notre économie, risque pour les foyers français, pour les ménages, pour notre vie quotidienne. Tout cela, c'est l'urgence. Absolument pas la reconnaissance de l'État de Palestine.
Est-ce qu'Israël a eu raison d'attaquer l'Iran, vu les circonstances ? Est-ce qu'Israël, je disais vulgairement, et Frédéric Ancel, qui était avec moi tout à l'heure, je dis, Israël est en train de faire le sale boulot. François-Xavier Bellamy.
Ce qui est certain, c'est que le régime iranien est une menace pour le monde, une menace existentielle pour Israël, une menace pour nos pays. La vérité, c'est que je pense que c'est impossible de faire de la géopolitique de comptoir. Personne, malheureusement, dans ce studio, même s'il y a ici des gens extrêmement bien informés, n'a toutes les clés en main pour comprendre ce qui s'est joué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une course contre la montre parce que les Iraniens refusaient manifestement ce que demandaient les Américains dans les négociations qui devaient se poursuivre dans quelques jours. Ils refusaient d'abandonner le projet d'enrichir de l'uranium. Et ce projet-là, pourquoi le refusait-il de l'abandonner ? Parce qu'il était la condition pour fabriquer la bombe nucléaire. La meilleure preuve que ce qu'ils voulaient n'était pas le nucléaire civil, contrairement à ce qu'ils continuent de prétendre aujourd'hui. Parce que si c'était le cas, la proposition leur était faite d'importer de l'uranium. Ce qui était suffisant pour le nucléaire civil, insuffisant pour le nucléaire militaire. Donc le risque, il était réel, le risque, il était existentiel. Quand on parle de nucléaire, on parle bien sûr d'un risque qui est, tous les Français le mesurent, évidemment abyssal. Et donc oui, sans doute, la réaction d'Israël a été motivée par cette course contre la montre.
Il est 20h19, François-Xavier Benhamy, eurodéputé, vice-président exécutif Les Républicains. Il y a une autre actualité qui nous a bouleversés cette semaine. Bouleversés parce que cet élève de 14 ans poignarde au hasard cette surveillante qui ne lui avait rien fait. Il la poignarde et il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret en audition, cet adolescent. Cet élève, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que des profils d'enfants très jeunes qui commettent des meurtres, qui des coups de couteau, qui donnent des coups de couteau. Là, il y a eu 37 coups de couteau. C'est un acharnement sur cette surveillante. Il y avait une marche blanche qui avait lieu ce soir à Nogent, en Haute-Marne. Vous êtes professeur de philosophie, François-Xavier Benhamy. Votre regard a cette saveur toute particulière. Que dites-vous de cette jeunesse que l'on découvre ébahie face à la violence et le non-regret du passage à l'acte?
Mais on ne le découvre pas. Et vous le savez comme moi, en réalité, aujourd'hui, cette violence, elle traverse notre actualité, même à bas bruit, mais tous les jours. C'est tous les jours que l'école en particulier, qui devrait être un lieu sacré, c'est tous les jours que l'école est traversée par une violence qui est de plus en plus explicite, de plus en plus décomplexée. Et moi, quand je pense, et je pense à Mélanie, je pense à sa famille, je pense à tous les professeurs de son établissement, à tous les professeurs de France aujourd'hui qui sont en première ligne devant cette situation de plus en plus préoccupante. Mais quand je pense à cette situation-là, j'ai une forme de colère profonde parce que ça fait des années qu'on tire le signal d'alarme. J'ai publié, pardon, je ne veux pas revenir à moi, mais c'est pour donner une petite idée de chronologie. J'ai publié un livre sur la crise de l'école en 2014 qui s'appelait « Les déshérités ». Et dans ce livre, je commençais par le récit de ma première rentrée. 15 jours après ma première rentrée comme professeur, c'était en 2008, je faisais mon premier cours. 15 jours après ma première rentrée, un jeune a été tué devant la porte de mon lycée à coups de tournevis. Et j'écrivais dans Les Déshérités, en racontant cette expérience, que nous étions devant l'effondrement intérieur, l'effondrement de la transmission d'une culture, d'un savoir, de repères communs, l'effondrement de l'autorité, l'effondrement de tout ce qui constitue la condition de la vie en société, et que tout cela provoquait l'ensauvagement que nous vivons. Et je disais cela exactement dans ces mots. Et qu'est-ce qui a changé depuis? Malheureusement, rien du tout. On a connu des débats interminables. Je me souviens des pudeurs de certains dirigeants politiques lorsqu'il s'agissait de contester le mot d'ensauvagement. Oh là là, surtout, n'employons pas des mots qui fâchent. Mais ce qui fâche, c'est pas les mots. Ce qui fâche, c'est la réalité. Ce qui fâche, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une génération entière qui grandit, en effet, en étant privée de ses repères communs. Et je le dis d'une manière très forte, je veux pas donner le sentiment d'excuser quoi que ce soit ce jeune. Il est inexcusable. Évidemment, son crime est un crime abominable.
Il ne demande même pas être excusé, François-Xavier Benhamy. Moi, je suis atterré, vous rendez compte, en garde à vue. Il s'en fiche. Enfin, pardon, Jean-Chenet.
Vous ne pouvez pas l'écarter, l'excuse.
Oui. Et bien, c'est de là qu'il faudra sortir, parce que ça fait longtemps qu'on le dit, l'excuse de minorité a contribué à ce sentiment d'impunité qui fait le climat que nous vivons. Mais malgré tout, dans cet acte-là, comme dans tous les actes de violence qui traversent la société aujourd'hui, et en particulier chez les plus jeunes, il y a plus que le crime d'un adolescent. Il y a une faillite collective. Il y a la faillite de ceux qui ont laissé l'école perdre sa mission, qui ont même retiré à l'école cette mission de transmission de nos repères communs. De ceux qui ont organisé, pas seulement laissé faire, mais organisé cette crise de l'autorité dont nous voyons aujourd'hui les résultats si, si concrets.
Et les parents, est-ce que vous pensez, vous, François-Xavier Benhamy, que les parents ont une part de responsabilité dans l'agissement de leurs enfants? Est-ce qu'il faudrait que les parents soient
responsabilisés? Mais que les parents soient responsabilisés, mais c'est une évidence. Georges Fenech le disait à l'instant, l'adolescent bénéficie d'une excuse de minorité. Mais s'il bénéficie d'une excuse de minorité, c'est parce qu'il n'est pas encore majeur. S'il n'est pas encore majeur, c'est qu'il est sous la responsabilité d'un majeur. Et donc, il faut bien que quelqu'un prenne la responsabilité. On ne peut pas à la fois avoir l'excuse de minorité pour les adolescents et en même temps l'absence de responsabilité chez les parents. Et aujourd'hui, tant de mères de notre famille politique, tant de mères, les Républicains, partout en France, disent, lorsqu'il y a un jeune qui pourrit la vie d'un quartier avec des trafics, avec de la violence, avec de l'intimidation, on ne peut pas sanctionner ce jeune et on ne peut pas rendre ses parents responsables. On est obligé, par exemple, de laisser cette famille dans des logements sociaux, d'où, en réalité, le sentiment d'impunité qui ne cesse de prospérer. Donc oui, bien sûr, il faut réagir.
Comment rétablir l'autorité, François-Xavier Benhamy? On est tombé si bas. Comment vous rétablissez cette autorité? Parce que ça part du haut.
Mais ça part du haut, mais ça part j'allais dire, ça part du tout début, ça part des plus petits. Et c'est de là qu'il faut commencer, qu'il faut recommencer. D'abord, il faut effectivement savoir responsabiliser les parents défaillants, mais il faut aussi soutenir les parents. Il y a beaucoup de parents qui sont eux-mêmes en difficulté dans leur exercice de l'autorité. Il faut soutenir les familles. Ensuite, il faut soutenir les professeurs. Pendant des années, vous savez, à l'Éducation nationale, la doctrine qui prévalait et qui malheureusement continue encore si souvent de prévaloir, c'était la doctrine du pas de vague. Pas de vague, c'est le mot que les professeurs avaient utilisé pour désigner ce qui leur était opposé. Quand un élève crée des problèmes, s'il conteste un professeur, c'est le professeur qu'on finira par obliger à céder au motif qu'il faut éviter de faire des vagues. Mais c'est cette logique qu'il faut renverser. Et ça passe par le fait, moi je le propose depuis des années par exemple, un élève aujourd'hui qui crée des problèmes dans un établissement scolaire, il peut être exclu temporairement, il peut être exclu définitivement, mais en fait il devra être rescolarisé. Et donc on va simplement le déplacer d'un établissement à l'autre. Il faut créer des internats fermés qui servent précisément à accueillir le plus rapidement possible, le plus tôt possible, des jeunes qui en ont besoin pour être remis sur le droit chemin. C'est absolument indispensable, parce que sinon, encore une fois, on ne fait que déplacer les problèmes, et toujours avec le pas de vague, on ne fait que les nier. Mais c'est, il faut maintenant sortir du déni de réalité, ouvrir les yeux sur la réalité de la violence qui traverse aujourd'hui nos écoles, et décider enfin d'y mettre un terme pour de bon.
C'est effarant, ce qui se passe sur les enfants. Moi, je voudrais aussi entendre Georges Fenech sur ce sujet. Mais on est obligé. Est-ce que vous pouvez rester avec nous, François-Xavier Bellamy,
ou
est-ce que
vous avez des... avec joie.
Ah, bah alors restez avec nous. Je voudrais aussi vous entendre. C'est très important. Moi, j'ai été en tant que maman. Mais comment on peut avoir un enfant je comprends pas qu'il n'ait pas de regret. Alors ça, c'est ce qui me dépasse le plus. Mais 37 coups de couteau, il n'a aucun regret en garde à vue. Georges Fenech, je sais pas vous si vous avez vu ça. Vous allez nous raconter ça dans un instant sur Europe 1. Il est 20h. 26.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer.
Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Alors à lundi, 7h-9h sur Europe 1.
Rouler en électrique ou hybride? Ok. Avec la qualité allemande? Évidemment. Et sans dépasser son budget? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8000 euros se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer.
Toutes vos émissions préférées en replay
sont disponibles sur l'application Europe 1.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à découvrir à partir de 99 euros par mois pendant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre réservée aux particuliers, valable du 12 au 16 juin pour Sandero Essentiel SE 65 9 euros option. Premier loyer 1700 euros LLD 49 mois 50 000 km si accordiaque. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à date à janvier 2025. Pensez à covoiturer.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke hybride, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix. Car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis.
C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3A Data, janvier 2025. Clio Génération SCE 65 heures option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1. Le journal permanent.
20h29, le journal permanent. Maël Hassani sur Europe 1.
Alerte générale en Israël. Tous les habitants sont appelés à se réfugier dans des abris. Des missiles tirés d'Iran vers l'État hébreu. Des explosions nourries entendues à Jérusalem et Tel Aviv. Le début de la riposte annoncée par Téhéran aux frappes israéliennes sans précédent menées en Iran depuis la nuit dernière. Des sites militaires et nucléaires visés. Des cadres du régime des Mollahs éliminés. Le régime sioniste ne sortira pas indemne de ce crime, promet ce soir le guide suprême iranien Ali Khamenei. Le monde entier retient son souffle face à ce regain de tension au Moyen-Orient. Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Élysée ce soir. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran possède l'arme atomique, affirme le président de la République qui prévient que les jours qui viennent sont, je cite, extrêmement dangereux. Il faut se préparer à des conséquences économiques. Emmanuel Macron annonce un renforcement du dispositif Sentinelle pour faire face à toutes les potentielles menaces en France. Dans l'actualité de ce vendredi soir également, des orages sur une grande partie de la France. 11 départements du sud-ouest placés en vigilance orange. 18 dans le nord-ouest, l'Île-de-France est concernée. 20% des vols sont annulés à l'aéroport de Orly. Un dernier hommage rendu à Mélanie dans les rues de Nogent. C'est devant le collège de cette ville de Haute-Marne que cette surveillante de 31 ans a été tuée mardi matin par un élève de 14 ans. Une marche blanche organisée en début de soirée en présence de 1500 personnes.
Merci beaucoup Maëlle, à tout à l'heure sur Europe 1, 20h31.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Pascal de la Tour du Pin.
Et je suis toujours avec François-Xavier Bellamy, avec Georges Fenech et avec Philippe Guibert. François-Xavier Bellamy qui a accepté de rester un petit peu plus longtemps. François-Xavier Bellamy, juste cette question, nous en parlions effectivement de cette idée pour les adolescents, les empêcher d'acheter des couteaux avant 15 ans. C'est une proposition qui a été faite cette semaine en marge de ce drame épouvantable de nos gens.
Alors moi je l'ai dit tout de suite, les couteaux dans cette affaire sont le symptôme. Ils ne sont pas le problème. Et on ne va pas réussir à lutter contre la violence qui monte en interdisant les couteaux. La vérité, c'est que les couteaux sont un symptôme parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre improbable d'adolescents qui se déplacent maintenant avec sur eux un couteau. Ça n'était pas le cas quand j'étais moi-même collégien. Et cette épidémie de couteaux est bien le signe d'une forme de brutalisation de la société, et notamment de violence qui monte chez les jeunes, c'est un signe extrêmement inquiétant. Mais encore une fois, on ne s'attaque pas à la grippe en essayant seulement de résoudre la fièvre. C'est la cause qu'il faut traiter. Et la cause, vous le disiez à l'instant, le plus glaçant dans cet épisode, c'est ce qui semble être la réaction de cet adolescent qui ne montrerait aucun regret, aucune compréhension de la gravité de ce qu'il a commis. La cause, c'est d'abord cet effondrement intérieur. C'est ce délitement intérieur. C'est l'absence de tout repère commun, de toute compréhension de ce qu'est la vie humaine, de ce qu'est la valeur de la vie humaine. Et cela, je n'ai pas peur de le dire, c'est encore une fois le résultat d'un échec collectif immense qui est un échec éducatif. Il faudra bien sûr des réponses sur le plan de la sécurité. Et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a annoncé avec beaucoup de rapidité à quel point il était nécessaire d'apporter une réponse sécuritaire à cette dérive. Il faudra des réponses pénales, il faudra une reconstruction de la chaîne pénale, bien sûr, mais à la fin, on ne sortira pas de cette spirale de la violence uniquement avec des policiers, des gendarmes, des magistrats. On en sortira d'abord en reconstruisant l'éducation, en reconstruisant l'école.
C'est incroyable, il faut reconstruire.
La santé mentale aussi, quand même.
Mais la santé mentale, l'effondrement de la santé mentale est aussi un symptôme de l'effondrement de l'éducation. Aujourd'hui, combien de jeunes lisent encore? Le temps qu'ils passent à créer, à former leur relation avec le monde est infiniment plus consacré à des vidéos de 10 secondes qui tournent sur TikTok et sur les réseaux sociaux et qui leur présentent d'ailleurs l'omniprésence de cette violence. J'ai organisé, écoutez, il y a 10 jours au Parlement européen, un colloque avec des familles qui ont porté plainte contre les réseaux sociaux pour la vie de leurs enfants qui avait été détruite. On a invité dans ce colloque une avocate, une psychiatre, des gens qui venaient de tous les horizons pour dire la gravité de ce qui se joue. La santé mentale, la crise immense que nous vivons aujourd'hui pour la santé mentale des jeunes, elle ne vient pas de nulle part. Ça n'est pas une épidémie inexplicable. Elle vient de ce que la relation de nos jeunes avec le monde ne se construit plus par l'école, par l'éducation, par l'apprentissage, par la culture, par la connaissance, par l'émerveillement, par la distance que permet la fréquentation des livres, des textes, tout ce qui a fait ce monde dans lequel nous avons grandi. Donc, elle se fait maintenant par cette succession d'images extrêmement violentes
qui détruisent les portables.
Mais les réseaux sociaux,
c'est...
Mais évidemment, et là encore, je le dis depuis très longtemps, c'est pour ça que je me sens en colère, c'est que ça fait très longtemps qu'on le dit, tellement de gens, tellement de professeurs, de tous bords politiques d'ailleurs, l'ont dit depuis très longtemps. Aujourd'hui, il faut rendre une enfance aux enfants. Et si on en arrive là aujourd'hui, c'est parce que nous avons failli dans notre tâche fondamentale qui est celle d'éduquer la génération qui vient.
Hannah Arendt disait,
Le travail de l'éducation répond à cette interrogation profonde. On se demande toujours quel monde laisserons-nous à nos enfants. Mais la vraie question de l'éducation, c'est quels enfants laisserons-nous à notre monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons nous interroger à nouveau sur notre responsabilité.
Oui, vous avez raison, François-Xavier Bellamy. C'est très intéressant, ça, Georges Fenech.
Cette affaire, on est effarés.
Et moi, je n'arrive pas à la comprendre. Et vous avez des explications, François-Xavier Bellamy. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 non plus.
La solution, c'est pas
c'est
le
qui,
couteau.
C'est qui ces jeunes?
François-Xavier l'a très bien dit, c'est pas le couteau. D'ailleurs, je signale que celui qui a tué cette pauvre Mélanie, il a pris le couteau de cuisine,
bien sûr,
dans sa famille. Donc, vous voulez mettre des scellés sur toutes les cuisines de France? Non, c'est pas ça la solution. La solution, notre jeunesse, c'est un défi majeur pour notre société, n'est-ce pas? C'est les jeunes d'aujourd'hui qui feront la France de demain. On a laissé filer l'autorité, on a laissé filer l'éducation, et aujourd'hui on en paye les conséquences. On a vécu depuis l'ordonnance de 1945, à l'après-guerre, où il fallait effectivement sauver ces orphelins de guerre, la culture d'excuse est née à ce moment-là, sur le primat de l'éducatif. Tout misé sur l'éducatif, et on a oublié la sanction. On a oublié le répressif.
Oui, c'était mal.
Moi,
la sanction
je crois qu'aujourd'hui, et
mal.
Quand on a réformé cette grande dame, cette vieille dame, qui avait 70 ans, et en 2021 avec Madame Biloubet, au lieu de s'adapter à notre période moderne, on a fait tout le contraire, on a fait une réforme à contresens historique, et qui plus est, sans débat à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est vrai.
Ça a été pris par ordonnance.
Oui, c'est raison, Georges.
Alors que c'est le grand défi majeur de notre société, on n'a pas fait un grand débat qui s'aurait mérité. Donc je pense qu'il faut abandonner, moi, pour ma part, j'abandonne l'histoire du primat éducatif. Je dis stop avec le primat éducatif.
C'est-à-dire qu'il faut peut-être repenser l'éducation.
Non, je dis stop. Je dis qu'on met à égalité, j'ai le droit de le dire, l'éducatif, mais la sanction. Et j'ajoute, la sanction est éminemment éducative. Voyez-vous, j'ai quand même une certaine expérience en tant qu'ancien juge d'instruction des mineurs. Je peux vous dire que 8 jours en prison, ça calmait le petit voyou. Et on ne le revoyait plus pendant très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, voyez-vous, par une forme d'idéologie, d'erreur, c'est une grande erreur d'avoir pensé comme ça, mais ces erreurs-là, on ne veut pas les reconnaître, il n'y a pas d'examen de conscience. S'il y avait un examen de conscience, on ne se contenterait pas de dire qu'il faut interdire les couteaux, on dirait qu'il faut tout de suite arrêter la loi Biloubet, il faut tout de suite réformer tout ça, il faut repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi il ne se passe pas ce genre de choses dans les pays du Maghreb? Pourquoi il ne se passe pas ce genre de choses ailleurs? Moi, j'ai visité des bootcamps, par exemple, à Chicago, allez voir les jeunes comment ils sont dans ces prisons-là. Vous allez voir comment ils ressortent. Hein. La plupart s'engagent dans l'armée. Allez voir ce qui se passe aux Pays-Bas, les courtes peines d'emprisonnement. On a tout arrêté. Plus de courtes peines.
Vous êtes d'accord avec ça, François-Xavier?
Le jeune, si vous voulez, celui qui a tué et qui avait un bon profil pourtant, il est quand même dans un contexte général d'impunité générale, voyez-vous. Et donc ça désinhibe...
Ça aurait pu le dissuader.
Moi, je pense
en l'occurrence, sur le cas particulier.
Il n'est pas tombé comme ça du ciel, ce jeune. Hein. Il est le fruit, le résultat d'une société qui a produit ce genre de choses.
François-Xavier Bellamy, vous êtes d'accord avec l'analyse de Georges Fenech?
Je partage totalement cette analyse. La vérité, c'est qu'effectivement, la violence a toujours existé, elle existera toujours, et c'est toujours le travail d'une société de réussir à la faire reculer. Mais la manière dont elle se généralise aujourd'hui dans toute une génération, cette espèce de sentiment que la vie humaine n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas de sens, cette capacité vous l'avez dit, de brutalité, de sauvagerie inouïe. On pense au nombre de coups de couteau que 37. Cette surveillante a reçu, mais il faut vraiment...
C'est de la rage.
C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça ne peut prospérer que sur un terreau. J'invite tous les auditeurs à faire cette expérience toute simple et malheureusement terrible. Tapez « violence école » dans un moteur de recherche et mettez « durée de recherche moins d'un mois ». Vous verrez que tous les jours, ça ne remonte pas dans l'actualité. Mais la presse quotidienne régionale, tous les jours, se fait l'écho de situations de violence extrêmement graves dans les établissements scolaires, souvent d'ailleurs contre des professeurs. Et c'est cela qui finit par engendrer des actes d'une telle brutalité. Et donc, moi, je suis totalement d'accord avec ce que disait Georges Fenech à l'instant. Les pays qui ont réussi à endiguer cela en Europe, pas besoin d'aller chercher loin, prenez les Pays-Bas, font l'inverse de nous. La sanction est éducative. À l'inverse, l'absence de sanction est ce qu'il y a de plus anti-éducatif qui soit. Et aujourd'hui, c'est le psychiatre Maurice Berger qui le dit d'une manière très claire. Aujourd'hui, en France, pour aller en prison, il faut déjà avoir récidivé plusieurs fois. Dans l'état actuel de notre système pénal, c'est quand on a déjà commis plusieurs délits graves qu'on finit un jour par aller effectivement en prison. Et donc, ceux qui vont en prison se sont déjà installés dans une culture de la violence. Et c'est pour ça que la prison, effectivement, ne prévient pas la récidive, parce qu'elle arrive trop tard. Les Pays-Bas, ils ont fait quoi ? Ils ont construit des places de prison de manière extrêmement ambitieuse. Ça, c'est ce que, malheureusement, les gouvernements passés n'ont pas fait. Ils ont construit des places de prison pour pouvoir incarcérer pour des courtes peines, parfois des très courtes peines, des peines de quelques jours parfois. Mais quand vous êtes encore à la première fois que vous commettez un délit, vous n'êtes pas encore installé dans une vie de délinquance, eh bien, vous êtes brutalement rappelé à la réalité par le fait que vous allez passer quelques jours en prison.
Le choc de l'incarcération.
Ça ne vous désinsère pas, parce que c'est souvent l'objection qu'on fait à la prison. On ne va quand même pas mettre quelqu'un en prison, il a un travail, rendez-vous compte, si on le met trois mois en prison, il va perdre son boulot. Voilà, on va quelques jours en prison, on se rend compte de la gravité de ce qu'on a fait, et du coup, on peut au moins remettre sa vie sur de bons rails.
Je vous ai déjà raconté l'anecdote que j'ai vécue, je ne vais pas la raconter à nouveau.
Laquelle, Georges Fenech ? Vous en avez raconté tellement.
Oui, non, mais écoutez, je me promenais sur les quais de Saône, face à mon palais de justice où j'ai exercé, et j'entends derrière moi, le soir, l'été, j'entends derrière moi, « Monsieur le juge, vous êtes bien le juge Fenech ?» Alors je me retourne un peu sur mes gardes, je vois un type d'une quarantaine d'années, de type maghrébin, qui me dit « Merci, monsieur le juge !» Je lui dis « De quoi ?» Il dit « Vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens. À 16 ans, vous m'avez mis un mois en prison. Ce jour-là, j'ai compris, monsieur le juge, c'est vous qui m'avez arrêté. Je suis marié, j'ai père de 3 enfants et je travaille. Merci, monsieur le juge. » Et il est parti.
Non, mais excellent, ça, c'est merveilleux comme témoignage, ça. C'est un merveilleux témoignage.
Et ce dit Maurice Berger, il donne des tas d'exemples comme ça. Ils ont fait des enquêtes que les mineurs, le choc de l'incarcération, ils comprennent. Si vous leur dites sursis, sursis avec mise à l'épreuve, stage, ceci, ils repartent chez eux, mais on ne fait rien, on ne fait rien, ils deviennent des caïds. Vous comprenez ? Alors, je sais bien que ça froisse la sensibilité d'une certaine doxa, comme on dit, de gauche, depuis Badinter. Pas de prison, la prison c'est mauvais, il faut arrêter la prison. Alors vous imaginez, pour les mineurs, voilà le résultat.
Si je peux me permettre, Georges.
Philippe Guibert.
Il y avait une diminution historique de la violence. La reprise de la violence dans notre société, on le voit dans les stats, c'est il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années.
Quinzaine d'années.
Vous êtes d'accord avec cette datation. Et donc c'est depuis 15 ans qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure du retour de la violence qu'on constate chez les jeunes, mais qu'on constate dans tout, dans les tentatives d'homicide, même dans les homicides aujourd'hui, dans les coups et blessures volontaires, où ça remonte depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc notre erreur, c'est depuis une quinzaine d'années.
Vous voulez me dire quoi ?
Je veux vous dire que c'est simplement que la politique qui avait été mise en place dans les années 80, elle correspondait à une société où la violence diminuait. Donc, il faut simplement comprendre pourquoi la violence est revenue. Et effectivement, il y a un problème d'éducation.
Peut-être pas la politique qui a été mise en place dans les années 80, parce que ces politiques-là, elles ont des effets à moyen et long terme.
Ce Nicolas Sarkozy, c'est la politique pénale qui est responsable.
Nicolas Sarkozy, on a du retour de la violence.
Pas tous ensemble, s'il vous plaît.
Trois choses. Les peines planchers, la construction de places de prison et les tribunaux correctionnels pour mineurs de 16 à 18 ans. Quand Madame Taubira est arrivée, elle a fait trois choses. En premier, elle a supprimé les peines planchers, elle a supprimé les tribunaux correctionnels pour mineurs et elle a mis au tiroir les peines de prison. Comment voulez-vous que ça marche ?
Bon, François-Xavier Bellamy, si un jour, effectivement, vous arrivez aux manettes d'une manière ou d'une autre, ce sera des points que faudra remettre à plat.
Mais bien sûr, évidemment, c'est une urgence absolue. Et je le redis, il y a la question pénale, il y a la question sécuritaire, mais il y a la question fondamentale, je crois, sera aussi la reconstruction, et même peut-être, et probablement d'abord, la reconstruction de l'école. Je pense que c'est la priorité vitale pour l'avenir du pays sur tous les plans.
Vous avez refusé de devenir ministre de l'Éducation à un moment donné.
Ah non.
On vous a pas fait cette proposition dans les gouvernements Au moment du gouvernement Michel Barnier ou au moment du gouvernement de...
Non, je...
Vous êtes sûr?
J'en suis sûr. Ce serait... D'aucuns trouveraient élégant de raconter qu'on leur a proposé et qu'ils ont refusé, mais très humblement, je ne peux pas vous dire que ça n'est pas le cas.
J'avais lu ça.
Ce n'était pas cette fois-ci, mauvaise information. Parfois,
ce ne sera pas seulement la tâche d'un ministre, ce sera la tâche de tout un pays de reconstruire l'éducation.
Bien sûr. Merci infiniment, François-Xavier
Bellamy,
d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1 et merci d'avoir accepté de rester plus longtemps. Il est 20h44, vous êtes sur Europe 1, le journal permanent. Oui, le journal permanent, tout de suite sur Europe 1.
La semaine prochaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1.
Une semaine exceptionnelle.
Venez rencontrer vos animateurs.
Découvrez comment les journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez.
Assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses et célébrez les succès d'Europe 1.
Entrez dans la grande famille Europe 1. Pour en savoir plus, rendez-vous sur europe1.fr.
Rubrique Le Club Europe 1.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1. Le journal permanent.
Il est 20h45 sur Europe 1, le journal permanent, Maël Hassani.
Des explosions à Tel Aviv et Jérusalem. Israël touché par des frappes iraniennes. En ce moment, des dizaines de missiles balistiques envoyés selon l'armée. Tous les habitants sont appelés à se mettre à l'abri. C'est la riposte de Téhéran à l'offensive sans précédent de l'État hébreu entamée la nuit dernière sur le sol iranien. Plus de 200 cibles visées, des sites militaires et nucléaires, des cadres du régime des Mollahs éliminés. Israël a lancé une guerre qui le mènera à sa ruine, affirme ce soir le guide suprême iranien Ali Khamenei. En France, le dispositif Sentinelle renforcé pour faire face à toutes les potentielles menaces sur le territoire national. Annonce d'Emmanuel Macron qui s'exprimait depuis l'Élysée sur la situation au Moyen-Orient. Les jours qui viennent sont extrêmement dangereux pour toute la région et au-delà, affirme le président de la République qui anticipe des conséquences économiques mondiales. La France participera à la défense d'Israël, promet Emmanuel Macron. Dans l'actualité de ce vendredi soir également, deux mineurs condamnés ce soir par le tribunal pour enfants de Nanterre à 7 et 9 ans de prison ferme pour le viol d'une fillette de confession juive de 12 ans l'année dernière à Courbevoie, près de Paris. Ce viol antisémite avait ému la France entière l'année dernière en pleine campagne des législatives. Et puis c'est le début des barrages d'accession en demi-finale de top 14 du rugby. L'aviron bayonnais reçoit Clermont à 21h05. Le vainqueur de cette rencontre retrouvera le Stade toulousain dans le dernier carré.
Merci beaucoup Maël, à tout à l'heure sur Europe 1 pour le journal permanent.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Pascal Delatour du Pin.
Il est 20h47, l'Iran est en train de riposter sur Israël à coups de missiles balistiques. Donc ce sont des missiles puissants. Rappelons-le, je voudrais qu'on revienne un instant. On va peut-être rappeler Isabelle quand on réussira à la joindre, que nous avons eu au début de cette émission pour savoir effectivement comment se passe... Comment elle vit, mais c'est horrible. Toute la population est dans les abris.
Tout le monde est dans les abris, y compris les journalistes. Donc je pense que ce qui explique les difficultés.
Non, mais c'est énorme. Là, on me parle de, moi, les informations. Deuxième salle, 300 missiles envoyés d'un coup. On me parle de 1000 missiles, 7 missiles qui ont touché Tel Aviv. Enfin, c'est la situation est dense. On s'y attendait, c'est dantesque. On s'y attendait, c'est la réponse de l'Iran. Peut-être que on pourrait dire un mot de Emmanuel Macron. Georges Fenech, vous avez écouté peut-être tout à l'heure le point presse d'Emmanuel Macron qui s'est fait attendre. Emmanuel Macron qui reconnaît que l'Iran était prêt à avoir l'arme, donc Israël a le droit de se défendre, mais qui c'est le en même temps qu'on a évoqué peut-être avec François-Xavier Bellamy qui pose question ce soir.
Mais moi j'ai effectivement des difficultés à suivre la cohérence de la politique étrangère française. Vous souvenez que il avait avant cette attaque israélienne sur les sites nucléaires iraniens, il avait annoncé qu'il annoncerait, sans doute le 18 juin, la reconnaissance d'un État palestinien. Mais avec qui ? Reconnaissance avec qui ? Quel gouvernement ? Quel parti politique ? La Palestine, aujourd'hui, est à reconstruire complètement, et avant de pouvoir imaginer lui donner un statut d'État indépendant. Ou alors ça veut dire que vous remettez, alors qu'on a encore 50 otages détenus sur ce territoire... Vous remettez les clés au Hamas.
Non, mais justement.
Donc, je pense, moi, c'est ma perception, mon cher Philippe. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une erreur totale, il y a un contretemps, une erreur de timing. Et preuve en est, d'ailleurs, c'est que c'est ce qui arrive. Ça l'oblige maintenant à repousser cette annonce parce que la situation géopolitique au Moyen-Orient ne s'y prête pas. Bien sûr que nous sommes tous pour deux États, mais ce n'est pas le moment.
Alors, Philippe Guibert, expliquez-nous pourquoi Emmanuel Macron a besoin, alors que le Moyen-Orient est en feu, de nous parler de la création d'un État palestinien. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Non, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même un point.
Excusez-moi, on a juste Isabelle, c'est compliqué de la joie. Isabelle, comment ça va? Parce qu'on voit effectivement qu'Israël est en train d'être frappé par des missiles balistiques. Comment ça va?
Ah non, mais c'est une folie. C'est une folie, c'est Star Wars en pleine nuit. Voilà, ça n'arrête pas. C'est tombé à côté de Tel Aviv. Voilà, je me suis mise sur des escaliers, j'ai pas eu le temps de descendre me protéger. Et j'attends, ça fait la deuxième fois, donc je pensais que c'était fini, et ça vient de la mer, ça vient partout. Mais tout va bien.
Oui, vous apprêtez à passer une nuit difficile, Isabelle. On va pas vous retenir trop longtemps, mais c'est important,
non,
votre témoignage.
La nuit va être longue, je suppose, en tout cas.
Bon. Protégez-vous et protégez votre famille, Isabelle. On vous rappellera évidemment ultérieurement. Vous souhaite bon courage et surtout merci d'accepter de répondre dans des circonstances. Il faut quand même voir les circonstances. C'est quand même très compliqué. On vous rappellera. Merci infiniment, Isabelle, de nous avoir répondu les 25 ans sur Europe 1.
Pour avoir voyagé en Israël il y a quelques semaines, la première chose que vous voyez en sortant de l'avion à l'aéroport de Tel Aviv, c'est une aire de protection. Et il y en a partout dans le pays. C'est un pays qui vit sous la menace permanente. C'est ça la réalité d'Israël. Et donc vous avez des aires de protection, et quand j'y étais il y a quelques semaines, on était loin de la situation, il y avait un missile outil qui était tombé la veille de mon arrivée sur l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv, et pendant que j'étais à Tel Aviv, il y a eu un missile outil intercepté. Donc Israël et les Israéliens vivent quotidiennement avec cette menace.
Alors, enfin là, c'est des missiles balistiques, et puis ça part par centaines. Hein.
Et donc ça veut dire, s'il y en a qui sont tombés, c'est qu'ils ont réussi à saturer le dôme de fer israélien. Donc évidemment que la menace sur Israël est permanente, et que là, elle est tragique, elle est grave. Si je reviens d'un mot, pardonnez-moi.
Bien sûr, c'est important.
La cohérence de la politique française, c'est qu'il y a une initiative de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et de l'Égypte, dont je m'étonne qu'on ne parle pas plus, qui est un plan alternatif au projet du gouvernement israélien, qui consiste quand même à envahir Gaza, à pousser des Palestiniens dehors. C'est ça la réalité, elle est explicite dans le discours du gouvernement israélien, en particulier de ses ministres les plus extrémistes. Et donc Emmanuel Macron appuie cette initiative égyptienne, jordanienne et saoudienne. Il fait une conférence de presse avec l'Arabie Saoudite dans une semaine, et c'est ça la cohérence de sa politique. Et donc sur ce point, en tout cas, je trouve qu'elle a une certaine cohérence, dès lors qu'il a rappelé avec clarté ce soir, plus de clarté que d'habitude, les conditions qu'il devait y mettre, c'est-à-dire une reconnaissance d'Israël, la démilitarisation du Hamas. Pour dire les choses, il ne peut y avoir d'État palestinien que si le Hamas ne le dirige pas. Disons les choses très clairement.
Dans la charte du Hamas est inscrite toujours
bien sûr.
La disparition de l'État d'Israël.
Et c'est le cas du Hezbollah aussi. Et donc il ne peut y avoir de démarche en ce sens. Mais les Jordaniens et les Égyptiens ne veulent pas non plus du Hamas. On sait très bien que si le Hamas reprend le contrôle de Gaza, c'est à nouveau la catastrophe. Mais en même temps que le projet du gouvernement israélien ne me paraît pas, il aboutit à la situation actuelle qui, sur le plan humanitaire, n'est pas acceptable.
Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci Philippe Guibert, Georges Fenech d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Il est 20h53. Tout de suite, les enfants d'Europe 1.
Europe 1 soir week-end.
19h, 21h.
Pascal Delatour Dupin.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Les enfants d'Europe 1.
Bonsoir Laure d'Autriche.
Bonsoir Pascal, bonsoir à tous.
Ce dimanche 15 juin, Johnny Hallyday aurait eu 82 ans. À travers les archives d'Europe 1, retour aujourd'hui sur un de ses concerts mythiques. Johnny a 24 ans, nous sommes en 1967 au Palais des Sports de Paris. Et ce concert est diffusé en direct sur Europe 1.
Oui, le concert devait avoir lieu à l'Olympia, où est enregistrée l'émission d'Europe 1 Musicorama, mais la salle est trop petite pour Johnny. Au Palais des Sports, 7000 personnes attendent l'idole des jeunes qui arrive sur scène en pantalon doré, ultra collant et chemise de satin.
Merci beaucoup.
le pain bordé.
Johnny veut du grand spectacle. 150 bombes de confettis, des canons qui lancent 10 000 fleurs et une tonne de pop-corn dispersée dans la foule. Alors qu'en cette année 67, la guerre des 6 jours vient de commencer, Johnny modifie les paroles de sa chanson « Hey Joe, le Vietnam, la bombe » devient « Israël, la bombe ».
Hey Joe, Israël, la bombe, tu t'en fous de tout ça ?
Après l'entracte, Johnny réapparaît pour mettre le feu avec Noir, c'est noir. Il finit le concert en fracassant sa guitare avant d'en jeter les débris à la foule. Johnny est un homme spectacle, lance Jacques Brel en 68.
Hallyday fait merveilleusement un métier, mais pour, je pense, des gens jeunes. Presque obligatoirement jeune.
Et 35 ans plus tard, sur Europe 1, Johnny Hallyday revient sur ce concert de 67 qui a marqué sa vie.
C'est ce fameux concert où tous les sièges ont été détruits dans la salle du Palais des Sports, où il y a une polémique. Faut-il pas interdire les spectacles de rock'n'roll en France? Le rock'n'roll amène la violence.
Les queues ! Quand il vous arrive, oh oui.
En 67, un enregistrement immortalise ce concert au Palais des Sports. Au dos de la pochette du vinyle, on peut lire « Jamais encore un disque possédant un tel punch n'avait été réalisé ». Et pourtant, à ce moment-là encore, Johnny pensait qu'il ne durerait pas plus d'un an ou deux parce que le rock'n'roll était trop éloigné de la chanson française en vogue à l'époque.
Europe 1 Soir Week-end.
19h-21h.
Pascal de la Tour du Pin.
Il est 20h55. Marlène Duré, les orages, ce soir, où en est-on ?
Oui, bah écoutez, ça progresse. Hein. Je vois qu'il y a des cellules qui se sont décrochées d'un gros paquet orageux au sud de Chartres. Et ça va se diriger vers Paris et sa petite couronne.
C'est précis.
Oui, parce qu'on les attend entre 22h et minuit, en fait, les orages pour Paris. Et puis, on a relevé aussi pas mal de grêles là, dans le secteur de Bordeaux, de gros grêlons, notamment dans le secteur de Saint-Selve. Alors, revenons à cette carte de vigilance. Oui. 22h, ça va un peu bouger. Il y a des départements qui vont sortir, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, Calvados et la Manche. Donc, il restera l'Eure, la Seine-Maritime, le Val-d'Oise, les Yvelines, Paris donc et sa petite couronne, les Hauts-de-France, bien sûr. Et puis, dans le sud-ouest aussi, il y a des départements qui vont repasser en jaune à partir de 22h, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, la Haute-Garonne et le Gers, et donc il restera tout le reste de l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées, sauf le Tarn et l'Aveyron qui seront toujours en jaune, donc ça c'est important. Attention toujours à ce phénomène de grêle et puis de pluie intense, des vents aussi, et puis demain à nouveau des orages mais moins violents qu'aujourd'hui, hein, et sur un axe qui partira du Massif central et qui remontera vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine en passant par la Bourgogne et le Centre-Val de Loire. D'autres orages aussi dans le sud-ouest, on n'a pas terminé. Les températures vont baisser à partir de demain, mais c'est surtout dimanche. Va falloir aérer les maisons et les appartes. Et puis à partir de lundi, à nouveau la chaleur. Allez, oui, c'est reparti. Et probablement avec des températures qui on dépassera les 30 degrés au nord, les 35 au sud. Donc de plus en plus chaud. Et peut-être encore des orages pour la fin de semaine prochaine.
Merci infiniment, Marlène Duré.
Il fera beau.
Oui. Merci, c'est très aimable à vous. Franchement, merci. Alors, une petite annonce avant de vous quitter. Laurent Mariotte et ses chroniqueurs vous invitent à la table des bons vivants chaque samedi de 11h à 12h30 et demain, cap sur la cuisine grecque et ses salades cette saison. Le célèbre Oriatiki. Voilà. Mais aussi le Dacos crétois. Est-ce que vous connaissez ?
C'est fou, hein, ça me laisse.
Non, salade de tomates sur un toast. J'adore
ça, je connais.
Vous connaissez ça ?
Oui.
J'adore, avec de l'huile d'olive.
Et un peu de mozza.
Oui, et un peu de mozza, mais j'adore ça, vous avez raison, tiens. Le chef Thierry Marx se joindra à la table pour faire déguster ses macro-pommes à l'huile accompagnées de pommes de terre Anna. Voilà, recette de pommes de terre gratinées en rosace. Nous, on se retrouve demain, 19h-21h pour Europe 1 Soir Week-end. En attendant, Maëlle Hassani vous accompagne pour l'information toute la soirée. 22h30, Valérie Darmon pour la Libre Antenne. N'hésitez pas à l'appeler. Elle est formidable, Valérie Darmon.
01 oui. 80 20 39 21.
Vous êtes trop forte. Vous pouvez le redire ?
01 80 20 39 21.
Elle est forte, hein, elle devrait faire de la radio. Tout de suite, c'est le studio des légendes avec Jacques Vendroux. Bonne émission.
Europe 1 Soir Week-end, 19h-21h
sur Europe 1.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 € par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 € option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 €. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 Adata mai 2025. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme, et parfois énorme c'est immense. Mais parfois grand c'est juste grand, et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster à partir de 24 990 € et maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir.